nos sélections.
Du reggae, mais il me semble que le texte est assez interpellant. Peuple juif, musulman, chrétien qui vivent ensemble, ça me rappelle vaguement quelque chose.
Ouais, ouais. C'est la ville dans laquelle, qui est un peu le centre du monde en quelque sorte.
Hein. Absolument. Jérusalem, par exemple.
Hein. Par exemple, hein, c'est, voilà. Donc tout tombe bien. C'est la sélection de ces mois d'août. Et une sélection qui va justement faire un petit peu le tour en quelques livres de cette ville étonnante qui est Jérusalem, et dans laquelle il y a différents peuples, différentes cultures et aussi une tradition et puis une histoire des millénaires.
On peut juste dire deux mots sur l'artiste qui fait ce reggae.
Oui, Alpha Blondie. Alors, tu connais un petit peu ?
Vaguement, oui.
Non, on s'y va vaguement, mais c'est l'auteur africain, je crois que tout le monde est pays africain, il est. Mais bon, tu sais, à part ça, que les rastas qui sont liés au monde du reggae aussi, parce qu'il y a, on connaît les grands icônes du reggae, et il vénérait Haïlé Sélassié, tu connais l'empereur
éthiopien.
Et tu sais qu'Haïlé Sélassié, il a visité Jérusalem, et il est allé parce qu'il y avait l'ambassade, et puis un monastère, parce qu'il y a l'église éthiopienne, qui avait un monastère à Jérusalem, et là était là, donc il y a un lien entre ces deux mondes, ces deux cultures. Et j'ai fait un aparté qui n'a rien à voir, mais il faut savoir que en Éthiopie, il y a non seulement une communauté chrétienne qui est une des plus ancienne que la plupart des pays d'Europe d'ailleurs, mais il y avait aussi une communauté juive. Éthiopienne, qui est ce qu'on appelle les falachas, et puis les bêta Israël, comme on les appelle, bêtes pour maison, hein, Israël, et qui ont émigré. Enfin, il y a eu cette opération qui les a fait venir en Israël. Donc oui, il y a un lien entre ces deux choses.
D'accord, mais on apprend plein de choses. Hein. Mais c'est fait pour.
Oui, écoute, c'est accessoirement. Et puis, mais on profite pour commencer cette petite sélection, qui va non seulement vont parler de la ville à travers différents auteurs, mais différents genres. Donc on peut parler de Jérusalem en tant que roman historique, en tant que livre de poèmes, et même des polars qui se déroulent à Jérusalem. Alors voilà, on va commencer cette petite sélection.
Alors, allons-y.
Pour commencer, comme premier titre, c'est un titre d'un auteur qui est connu dans certains cercles, surtout, pour être, et du coup ça va donner notre relief au livre dont on va parler, qui est un roman, mais c'est un auteur qui est connu plutôt dans les cercles théologiques érudits, pour être un des grands spécialistes de la Bible, du monde biblique et du christianisme, et qui s'appelle Gerd Theisen, et qui est cité par les grands spécialistes des évangiles et autres. Mais en l'occurrence, c'est un roman. C'est un roman qui s'appelle « L'ombre du Galiléen ».« L'ombre du Galiléen ». Alors, le livre se déroule pendant l'occupation romaine de Jérusalem. Donc, les romans sont à Jérusalem. Il y a Ponce Pilate, qui est là, essaye de contrôler les choses. Et il y a, évidemment, la ville de Jérusalem, et, quand ça n'a pas été, est en effervescence. Il y a toujours des manifestations contre l'occupant, qui, en l'occurrence, il se trouve être Rome. Et ça a beaucoup changé. Chaque époque, il y a toujours des grabouches. Mais en l'occurrence, à l'époque, les Romains occupent. Et puis, André, et bon, André, c'est là. On va dire que les noms ont été un petit peu modernisés, qui est un jeune juif qui manifeste contre cette occupation romaine, est arrêté par Ponce Pilate, par la police de Ponce Pilate, et puis, qui est comme d'autres polices d'ailleurs, ne faisait pas dans la dentelle, si j'ose dire, et donc il se voit d'une certaine manière contraint d'accepter de devenir espion. Pour voir tout ce qui se passe. Pour voir qu'il faut savoir qu'il y avait des tas de gens qui voulaient. Il y avait les opposants pacifiques. Et ben, tu vois comme l'histoire est toujours.
Elle se répète.
Les opposants violents qui veulent faire du terrorisme en quelque sorte. Et puis il y a dans tout ce monde, toute cette complexité, il y a un gaillard un peu étrange qui s'est fait nommer Jésus. Et donc cet André va essayer d'infiltrer ces mouvements là. Et donc, tout se passe autour de cette période-là, mais vu de cet angle-là, qui est assez intéressant, et en plus, écrit par quelqu'un qui est non seulement un écrivain de fiction, mais qui est un érudit dans le monde biblique. Donc, c'est très intéressant. Ça s'appelle « L'ombre du Galiléen » avec le numéro 65495.
Oh, c'est tout récent, ça.
Oui, c'est tout récent.
Ah, d'accord.
Mais...
Jérusalem sous les Romains. Un jeune juif, André, manifeste contre l'occupant. Arrêté par la police de Ponce Pilate, il lui faut accepter de devenir espion. Sadducéens, pharisiens, zélotes, esséniens et nazaréens, nouveau venu, sa mission de renseignement va le faire plonger au cœur de l'ébullition religieuse du Second Temple. Au long de son enquête, André va devoir mettre ses pas dans ceux d'un mystérieux Galiléen, un dénommé Jésus. C'est tout un monde que ressuscite avec science et passion ce roman vrai qui, de succès international, est devenu un classique.
Un deuxième titre.
Mais oui, un deuxième titre, du coup, pour équilibrer les choses. Pas du contenu, mais du point de vue de la numéro du livre, tu verras tout à l'heure. C'est un écrivain israélien qui s'appelle David Shahar, qui est plutôt un conteur, mais qui a une grande poésie dans ce qu'il raconte. C'est un homme de Jérusalem. Il a vécu à Jérusalem presque toute sa vie. Et le livre s'appelle « La colombe et la lune », nouvelle de Jérusalem. Et là, justement, il met en scène des personnages, des histoires, des petites nouvelles, des contes, on pourrait dire, et dans lesquels se côtoient des juifs, des chrétiens, des musulmans, et la vie quotidienne à Jérusalem, et surtout... Et dans la période où il y avait, pour ça qu'il y a eu l'occupation ottomane, après il y a eu l'occupation anglaise, puis après, bon, il y a eu ce qu'on sait, il y a tous les changements, mais là, ces livres, surtout, se déroulent, bon, en grande partie, dans cette période qui est entre la fin de l'occupation ottomane et la période, entre guillemets, de domination ou de protectorat, d'occupation anglaise. Les livres, et David Shahar en particulier, dans tous ses livres d'ailleurs, il a les dons d'être en même temps fluide, agréable, un petit point d'humour parfois, mais avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de poésie. Et le livre, donc, qui s'appelle « La colombe et la lune, nouvelle de Jérusalem », est disponible avec un numéro qui est très facile à dire parce que c'est les 3259.
L'horloge. Miss Tide était venue passer ce printemps-là dans la maison que possédait son oncle, Lord Time Jr., à 1,5 km au sud de Tel al-Vakf. D'été en été, il revenait dans sa propriété palestinienne et s'adonnait à des fouilles archéologiques. Lord Time Jr. avait passé 7 saisons consécutives à Tel al-Vakf et nulle découverte d'importance n'était survenue. Il faisait son apparition une 8aine de jours après Pâques, engageait des ouvriers arabes au village voisin et se mettait à creuser le sol du tel à la manière anglaise, méthodiquement, patiemment, avec un enthousiasme contenu et persévérant, qui ne risquait pas d'aboutir aux accès de dépression et de mélancolie qui sont le partage de tous les archéologues exaltés et impatients qui usent en vain leur énergie à fouiller les tombeaux des générations passées. Il assumait lui-même toutes les dépenses de l'entreprise et des travaux sans avoir recours à une quelconque institution académique ou gouvernementale en Palestine ou à l'étranger. Envers les savants juifs qui commençaient à prendre la place des savants étrangers, il ne faisait montre ni d'amitié ni d'aversion, de sorte que ses relations avec eux ne différaient en rien de celles qu'il entretenait avec ses autres collègues. Une seule fois, il fit remarquer à sa jeune nièce, Miss Tide, que ces juifs, avec les arguties de leur cerveau disputailleur, privaient le travail de son côté le plus agréable et en ternissaient le plaisir. Miss Tide l'accompagnait lors de sa dernière saison de fouilles, la huitième, l'année même de l'indépendance de l'État d'Israël.
Alors, un troisième, c'est des livres d'un écrivain qui s'appelle Samuel Agnon, on dirait Agnon en français parce que c'est A-G-N, et le livre, c'est un petit roman qui s'appelle, on pourrait dire une grande nouvelle, qui s'appelle Tehila, et... Alors, c'est l'histoire d'une vieille dame qui habite à Jérusalem, aussi la Jérusalem pré-israélien, mais une vieille dame d'origine juive, et très sage, très, très, très bonne, mais qui a une vie très dure, une vie extrêmement dure. Et donc, c'est l'histoire de l'alter ego de l'auteur qui va rencontrer cette vieille dame et une relation s'établit entre eux. Et c'est aussi un livre plein de sensibilité. Il s'appelle Tehila. Et il est disponible le numéro 20291. Et juste que pour info, Samuel Agnon a été le premier écrivain de langue hébraïque à gagner le prix Nobel de littérature en 1966. Donc c'est en détail. Donc il a été prix Nobel. Voilà, pour Tehila 20291.
Ouvrez les guillemets. Il y avait une vieille à Jérusalem. Une magnifique vieille, comme vous n'en avez pas vu de toute votre vie. Elle était vertueuse, elle était sage, elle était gracieuse et modeste aussi. Ses yeux n'étaient que bonté et compassion, et les rides de son visage, toutes de bénédiction et de paix. Fermez les guillemets. Tehila est âgée de 104 ans lorsque le narrateur lui-même écrivain fait sa connaissance au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Immédiatement ébloui, il nous raconte la bienveillance de cette femme, son extrême générosité, ainsi que son passé tragique. Un jour, alors que Tehila lui demande de rédiger une lettre à l'attention de certain Shraga, elle lui conte son enfance en Europe et ses fiançailles rompues par son père. Elle décrit les années de malédiction qui s'ensuivirent et qui menèrent ses deux fils à la mort avant de faire sombrer sa fille dans la folie. Depuis, Tehila consacre sa vie à l'étude des psaumes et aux autres, mais elle ne peut se résigner à s'éteindre avant d'avoir adressé quelques mots d'excuse à celui qui aurait dû être son mari, Shraga. Ce court roman est l'un des textes les plus émouvants de S. J. Agnon, un texte fondateur aux innombrables perspectives. Tehila est un livre sur les différents courants du judaïsme, autant qu'un poème dédié à Jérusalem. C'est à la fois un texte sur le malheur et un récit sur la sagesse. Tehila est enfin un merveilleux hymne à la beauté des femmes qui, par-delà même la mort, rayonnent dans l'œuvre du grand écrivain israélien.
Alors, un quatrième titre, parce qu'il faut varier le plaisir, c'est un livre de poésie, il faut n'est pas coutume, d'un grand poète, il y a un grand poète israélien, mais un grand poète tout court, parce que la poésie n'a pas de nationalité, et il s'appelle Yehuda Amichai. Et justement, son livre s'appelle « Poème de Jérusalem ». Alors, il fait un parcours. Donc, on peut parcourir Jérusalem dans une ville qu'il appelle plaisamment dans un de ses vers « La Venise des dieux ». Il fait un petit peu une sorte de parcours avec lequel il montre comment c'est cette ville qui est un peu folle parce qu'il y a toutes ces religions, tous ces gens qui se mêlent. Et il a les dons, Yehuda Amichai, d'écrire des poèmes qui sont en même temps très sensibles, très délicats et très accessibles. Il y a parmi, je me permets, Je ne fais pas ça parce que je ne suis pas un lecteur. Le livre a été lu, donc. Mais il y a juste un petit morceau d'un poème que je vais lire pour que tu comprennes un petit peu ce qu'il sait et qui donne en plus un peu l'essence de sa poésie, l'essence de l'humanisme qui, on aimerait qu'il soit présent, toujours là. Alors voilà, c'est un petit poème qui il s'appelle « Les touristes ». Il dit « Un jour, j'étais assis sur les marches près d'une porte à la tour de David. J'avais posé mes deux lourds paniers à mes côtés. Un groupe de touristes entourait leur guide et je devins leur point de repère. Vous voyez cet homme avec le panier ? Juste à droite de sa tête, il y a une voûte datant de l'époque romaine. Juste à droite de sa tête. Mais il s'en va ! Je me suis dit, la délivrance ne souviendra que si leur guide leur disait plutôt, vous voyez cette voûte datant de l'époque romaine ? Ce n'est pas important. Mais à côté, à gauche, un peu vers les bas, il y a un homme assis. Un homme qui achetait des fruits et des légumes pour sa famille. Et donc, c'est voilà, l'homme, c'est le plus important. C'est pas la ville. Ouais. Donc voilà, ce livre de Jérôme Damaschel, qui s'appelle « Poème de Jérusalem », est disponible avec le numéro 65857.
Jérusalem, la Venise de Dieu, est au cœur de la poésie de Yehuda Amichai, 1924-2000, qui a marqué durablement la littérature israélienne du XXe siècle. Cette anthologie, parue pour la première fois dans cette collection en 1991, parcourt l'œuvre tout entière du poète de 1948 à 1989 et nous fait découvrir les multiples facettes de cette ville dont le nom en hébreu, Yerushalayim, est un pluriel, comme sa destinée. En ce beau jour d'automne, je fonde Jérusalem à nouveau. Les rouleaux de sa fondation voient dans l'air oiseaux, pensées.
Ensuite,
au cinquième
titre, on a un auteur dont on a parlé brièvement il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Amos Oz, et le livre s'appelle Judas. Judas. Alors là, on revient un petit peu à l'homme du Galiléen, parce qu'on sait bien que Judas était un personnage important dans toute... important, on va dire, de manière négative, mais en même temps, ça fait partie de la des grands événements, n'est-ce pas? Parce que c'était un des disciples, qui a trahi, mais qui est important d'une certaine manière pour le déroulement des événements, si j'ose dire.
Oui, c'est là, c'était là, il ne s'est pas passé la même chose.
Hein. Oui, d'ailleurs, il y a tout. Justement, c'est ça qui est l'une des trames du livre, parce qu'évidemment, il est en train de faire. C'est un jeune, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme, alors il y en a les retours dans le temps, qui est en train de faire une thèse, une recherche justement sur ces personnages de Judas. Et c'est un jeune qui est un peu paumé, qui n'a pas le sou. Donc ça se déroule un peu dans les années, fin des années 50, 59. Et puis on lui présente un monsieur, enfin, auquel il va faire un peu l'homme de compagnie. Il va l'accompagner, il va les lire, lui lire, parler avec lui. Et puis en même temps, justement, on va aller dans cette époque. La Jérusalem divisée d'avant, avant la Jérusalem telle qu'on la connaît maintenant, et on va faire une sorte de grande méditation sur ce qu'est la trahison, hein, et qu'est-ce que ça veut dire trahir, et comment parfois la trahison fait partie du processus des créations des événements, et en même temps, c'est une histoire d'amour, et c'est l'histoire justement d'Israël au XXe siècle, qui passe à travers ce livre d'Amos Oz, grand écrivain israélien. Et le livre Judas est disponible avec le numéro 33324.
Le jeune Shmuel H. désespère de trouver l'argent nécessaire pour financer ses études lorsqu'il tombe sur une annonce inhabituelle. On cherche un garçon de compagnie pour un homme de 70 ans. En échange de 5 heures de conversation et de lecture, un petit salaire et le logement sont offerts. C'est ainsi que Shmuel s'installe dans la maison de Gershomwald, où il s'adapte rapidement à la vie réglée de cet individu fantasque, avec qui il aura bientôt des discussions enflammées au sujet de la question arabe et surtout des idéaux du sionisme. Mais c'est la rencontre avec Atalia Abravanel qui va tout changer pour Shmuel, tant il est bouleversé par la beauté et le mystère de cette femme un peu plus âgée que lui, qui habite sous le même toit et dont le père était justement l'une des grandes figures du mouvement sioniste. Le jeune homme comprendra bientôt qu'un secret douloureux la lie à Wald. Judas est un magnifique roman d'amour dans la Jérusalem divisée de 1959, un grand livre sur les lignes de fracture entre judaïsme et christianisme, une réflexion admirable sur les figures du traître et assurément un ouvrage essentiel pour comprendre l'histoire d'Israël, un chef-d'œuvre justement acclamé dans le monde entier.
En sixième position, on entre dans le monde bien aimé d'un grand nombre de nos auditeurs et nos auditrices du roman policier. Avec une écrivaine, une auteure israélienne aussi, qui s'appelle Batya Gur, dont on a un certain nombre de livres enregistrés à la BSR. Et ce livre en particulier s'appelle « Le meurtre du samedi matin ». Les meurtres du samedi matin, l'enquête, les commissaires fétiches, tu sais qu'il y a souvent les écrivains policiers ont un commissaire, un personnage qui est toujours récurrent dans comme Sherlock Holmes, comme Hercule Poirot, etc. Alors, en l'occurrence, il s'appelle Michel O'Hayon, et puis, il se trouve qu'il y a à Jérusalem, dans l'Institut des psychanalystes de Jérusalem, il se passe quelque chose de terrible, c'est qu'une doctoresse, Eva Nerdoff, qui est psychanalyste, a été retrouvée dans son bureau avec une balle dans la tempe, et il va falloir, bien sûr, enquêter, et en même temps enquêter dans un monde où il y a les secrets, bien sûr, des professionnels, des psychanalystes, etc. On est à Jérusalem. Bref, tous les éléments sont créés pour une intrigue passionnante. Donc, c'est « Le meurtre du samedi matin » de Batya Gur, avec le numéro 33627.
Pour les membres du prestigieux Institut de psychanalyse de Jérusalem, ce samedi restera à jamais le jour où l'indicible s'est produit. Le docteur Eva Neidorf, analyste de renommée internationale, profondément aimée de ses collègues, a été retrouvée dans son bureau, tuée d'une balle dans la tempe. Ses proches sont abasourdis. Il n'y a pas de mobile. Elle connaissait l'assassin et lui a elle-même ouvert la porte. Michael O'Hayon, confronté aux arcanes de ce milieu viscéralement tenu par la déontologie du secret, saura mettre à nu les raisons d'une telle violence. Il saura poser la question cruciale pour cette profession : que faire lorsque l'on détient sur un patient des informations moralement inacceptables ? Que faire si l'intégrité physique ou psychologique d'autres personnes est gravement en danger ?
Dans la septième position, on a un écrivain qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Maxime Dalle, journaliste, entre autres. Et le livre ne concerne pas seulement Jérusalem, mais il est question aussi de Jérusalem. C'est un livre de voyage, et de réflexion aussi. Et ça, il s'appelle « Itinéraire au crépuscule ». Et Maxime Dalle a parcouru 3 villes, dans lesquelles il essaie de s'imprégner et de connaître un peu, d'entrer dans les villes un peu à des biais pour connaître la réalité profonde. Donc Belfast, bon. On peut imaginer, d'ailleurs, ça risque de revenir comme à une époque, si le Brexit se concrétise. Et Jérusalem et Bagdad, donc tu vois que ce n'est pas rien. Mais en ce qui nous concerne, et voilà, ben, Jérusalem, il entre dans cette ville, puis dans les régions environnantes, il entre en contact avec les aliens, les Palestiniens, etc. Donc il voit un peu c'est de la situation du pays et de la ville de Jérusalem en particulier. Donc, ce livre de Maxime Dalle, Itinéraire au crépuscule, avec le numéro 65817.
Quatrième de couverture. Itinéraire au crépuscule raconte l'histoire de 3 géographies, 3 civilisations aux abois, L'une est occidentale et insulaire, l'Irlande des Gaëls. La deuxième est la terre brûlante de Palestine, carrefour spirituel de l'Orient. Et la dernière, ancienne patrie de Saddam Hussein et cette antique Mésopotamie où émergèrent la grande Babylone et la Syrie d'Assur-Nasir-Pal II. Sous le patronage de Jack London, je suis parti à la rencontre de ces géographies martyrisées et de ces peuples meurtris. Nord-Irlandais, Palestiniens, Yézidis, Zoroastriens, ils sont le cri ultime d'une beauté immémoriale.
En huitième,
en huitième position, c'est un livre un peu particulier, c'est un livre documentaire de société de notre écrivaine, auteur française, s'appelle Florence Heimann, française d'origine juive, qui s'appelle Les déserteurs des dieux. Les déserteurs des dieux, c'est sur le ultra-orthodoxe qui sortent du ghetto. Alors, c'est une, parmi les choses, parce qu'il n'y a pas que l'Institut de psychanalyse et des meurtres, etc., et des poètes. Et il y a aussi, à Jérusalem, comme ailleurs, mais en particulier, il y a des tout. Hein. Il y a des musulmans, des chrétiens, et des juifs laïcs, mais il y a une grande communauté de juifs orthodoxes et ultra-orthodoxes. Les pratiquants ne sont pas seulement à Jérusalem. Et donc, dans ces communautés qu'on appelle les ultra-orthodoxes, c'est un univers fermé. Les gens sont là, fermés. Mais il y en a qui, à un moment donné, ont envie de sortir. On les appelle les sortants. Mais ces gens-là, ils sont vécus depuis l'enfance, dans un monde où tout est codifié, où ils ne savent rien. Ils ne savent pas comment vivre, comment s'acheter une chemise, comment aborder une personne. Et il y a des associations, une association qui a été créée, en particulier à Jérusalem, pour recevoir ces personnes et un peu les orienter dans la vie, à comment pouvoir sortir. C'est très difficile. Alors, il y en a qui s'en sortent parce qu'ils ne croient plus, parce qu'ils perdent la foi. Il y en a qui s'en sortent parce que, typiquement, il y a ce qu'on appelle les kippa roses, donc les gens qui se découvrent qu'ils sont homosexuels ou autres, qui vraiment que c'est pas toléré dans ces milieux. Il y en a qui s'en vont parce que tout simplement ils ont envie de faire une autre vie. Bref, il y a plusieurs raisons, mais ils ont tous à s'accepter, ils essayent de les aider à créer des tissus sociaux, à réapprendre à vivre en quelque sorte, et ils s'en sortent pas tous. Parce que quand tu as vécu toute ta vie dans ce monde, il faut savoir que quand tu sors de là, tu es mort, en quelque sorte, pour ta famille. Et donc, il y en a qui ne supportent pas. Et puis, bon, d'autres qui arrivent à s'intégrer quand même dans la vie de l'extérieur. Donc, c'est un livre extrêmement passionnant qui est basé sur des témoignages, sur des premières mains. Et ça s'appelle donc Les déserteurs des dieux, avec le numéro 31342.
On les appelle les sortants vers la question. Ces hommes et ces femmes issus des milieux ultra-orthodoxes israéliens qui, un jour, décident de rejoindre la vie laïque. Ce choix douloureux les plonge dans un univers inconnu où ils sont coupés de leur famille, souvent sans ressources et sans éducation autre que religieuse. Là d'où ils viennent, la vie est réglée de façon précise et immuable, soumise à une loi implacable mais rassurante. Là où ils vont, ils sont seuls face à eux-mêmes. Au sein d'une association d'aide aux sortants à Jérusalem, Florence Heimann a rencontré beaucoup de ces déserteurs. Elle restitue leur cheminement chaotique à travers des portraits intimes et attachants, des dissidents, des apostats sortis du placard, des suicidaires, des marginaux, des kippas roses, des voyous. Autant d'individus réclamant simplement le droit de choisir leur vie, loin de leur monde religieux d'origine ultra-sectaire, dans lequel même le sexe et le téléphone sont destampillés cachères. Parfois réussis, parfois tragiques, ces sorties du ghetto sont toujours un voyage fascinant, un apprentissage de la liberté semé d'embûches et de doutes. Un travail totalement inédit, qui nous donne à découvrir le monde fermé des ultra-religieux et les parcours poignants d'êtres en quête de leur vérité.
Alors, on est presque Enfin, en neuvième position. En neuvième position, il y a un livre d'une, aussi d'une femme, d'une écrivaine israélienne, qui s'appelle Tseruya Shalev, grande écrivaine israélienne. Le livre s'appelle Douleur. Alors, le livre s'appelle Douleur. Il faut savoir qu'il est basé, en tout cas, pour certains aspects, sur du vécu. Parce que Tseruya Shalev elle-même, elle a été... comme ça peut arriver à n'importe qui, hein, ça peut m'arriver aussi, comme ça peut arriver à n'importe qui, est victime d'un attentat. Une bombe a explosé à Jérusalem, et elle était passée par là, et puis elle s'en est pris plein dans les corps, et elle a survécu, Tseruya Shalev, mais elle a été très mal en point. Et donc, son personnage, qui s'appelle Iris, a aussi vécu un attentat, donc elle a été blessée. Et elle était restée très 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 mal, avec des douleurs partout, qu'elle doit faire systématiquement à l'hôpital. Et elle est prof, donc elle est directrice d'école à Jérusalem. Et un jour, elle a une famille, un enfant, un mari, etc. Mais il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et elle découvre que le médecin qui va s'occuper d'elle, qui s'occupe d'elle, est un ancien amour de jeunesse. Et donc, plein de choses vont s'enchaîner, que ce soit au niveau de ses relations amoureuses, au niveau de ses enfants, au niveau de son rapport à ce qui se passe dans le pays, etc. Donc c'est un livre assez très riche à plusieurs niveaux. Et il s'appelle Douleur, donc voilà les noms du tout. Et il est disponible avec le numéro 34398.
10 ans après avoir été blessée dans un attentat, Iris semble avoir surmonté le traumatisme. Malgré des douleurs persistantes, des problèmes avec ses enfants et un mariage de plus en plus fragile, la directrice d'école, ambitieuse, et la mère de famille engagée qu'elle est, s'efforce de prouver qu'elle contrôle la situation. Tout bascule, cependant, le jour où elle reconnaît, sous les traits d'un médecin qu'elle consulte, Ethan, son premier amour, qu'il avait brutalement quitté lorsqu'elle avait 17 ans. Dans un vertige sensuel et existentiel, Iris éprouve alors la tentation de faire revivre cette passion qu'elle croyait éteinte. Et si une seconde chance se présentait à elle? Ce roman, aussi puissant que subtil, dévoile les séquelles que le passé peut laisser sur les corps et les esprits, tout en interrogeant notre capacité à faire des choix, au moment même où la vie nous renvoie à l'essentiel.
On arrive à la 10e position et dernière de cette petite sélection, 10 livres, comme les 10 commandements, pour faire bien avec la ville. Et donc, le livre qui est en 10e et dernière position, mais pas forcément au niveau de ce qu'il représente, parce que c'est un de mes auteurs préférés, d'ailleurs, qui s'appelle David Grossman. David Grossman, c'est un auteur israélien qui est très intéressant, non seulement parce que c'est un grand écrivain, mais aussi c'est quelqu'un qui milite pour la paix, qui est très impliqué dans la paix et dans la coexistence entre les différents peuples. Et c'est le premier écrivain qui a écrit un livre dans les années 60, quand il était soldat dans les territoires. Donc il a appris l'arabe pour pouvoir discuter avec les Palestiniens. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Les Vents jaunes », qui a été mal reçu par une partie des gens en Israël, parce que justement il parlait de la situation dans les territoires et les mains jaunes. Mais indépendamment de ses engagements, c'est un grand écrivain qui est doté d'une sensibilité et puis surtout d'une plume assez extraordinaire. Et ce livre en particulier, je dirais que c'est un livre qui, même s'il est il y a une partie bien sûr dramatique, c'est un des livres les plus rafraîchissants. Et il s'appelle « Quelqu'un avec qui courir ». C'est l'histoire d'un jeune, d'un adolescent, qui s'appelle Asaf, 16 ans. Et puis, c'est l'été à Jérusalem, et il trouve un job d'été. Bon, il doit s'occuper d'un chien, c'est perdu, etc. Un chien perdu, bon, ça a l'air complètement anodin. Sauf que Jérusalem, c'est pas n'importe quelle ville. Puis, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est une ville dans laquelle, autres les religions, les croyants, c'est un grand labyrinthe dans lequel il y a aussi des dealers, il y a de la paix, c'est ça qu'on connaît. On connaît mal ce côté qui est une ville comme les autres grandes villes qui ont un monde de la nuit, de la paix, des dangers. Et donc là, il y a un deal des dealers, il y a un grand mafieux qui est un gars très dangereux, il y a une jeune fille magnifique, une sorte de personnage des rêves. Donc évidemment, c'est une histoire entre ces garçons, cette fille qui est recherchée par différentes personnes. Et donc c'est en même temps, c'est un roman d'apprentissage en quelque sorte, c'est un joli roman qui a un côté des livres de chevalerie, parce que c'est jeune, évidemment 16 ans, un adolescent amoureux et plein d'idéalisme. Essayer de faire, d'aller au-delà de ce qu'il peut faire dans la vie. Donc c'est un très beau roman qui donne une autre manière de voir Jérusalem. Il s'appelle « Quelqu'un avec qui courir » de David Grossman, avec le numéro 31707. Et avec celui-là, on finit cette petite sélection.
Retrouver le maître d'un chien garé. Voilà le job d'été a priori banal que décroche à Sav, 16 ans. Arpentant les dédales de Jérusalem, où naviguent jeunes à la dérive et redoutables dealers, il va pourtant être entraîné dans une aventure initiatique dont Tamar, adolescente mystérieusement disparue, est le centre. Un roman d'apprentissage mené sur un rythme endiablé.